Aujourd'hui à l'émission, politique française et politique américaine.
Le Monde, aujourd'hui, avec Julien Corona.
Bonjour à tous, cinquième numéro du Monde Aujourd'hui, Julien Corona comme d'habitude aux antennes de Radio VM. Aujourd'hui, deux invités à l'émission, Christian Rioux, le correspondant du Devoir à Paris, on va discuter avec lui de la politique française à 7 mois des présidentielles, et Frédéric Véraud, chercheuse en résidence à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l'UQAM. Avec elle, on va discuter des démocrates et de la santé du Parti démocrate à un an des midterms aux États-Unis en 2022. Notre premier invité du jour, c'est Christian Rioux, le correspondant du Devoir à Paris. Bonjour, monsieur Rioux.
Bonjour.
Donc, avec vous, on va discuter de politique française et de l'état des forces politiques à 7 mois de la présidentielle française. En ce moment, on parle beaucoup du phénomène Éric Zemmour. Pour beaucoup de nos auditeurs au Québec et au Canada, c'est un peu étranger, mais on s'intéresse quand même à la politique française, mais on se demande d'où viennent ce type de personnages. Est-ce que Macron peut résister à une montée de ses forces populistes à droite, à une union de la gauche, à la gauche et l'autre? Donc, on va essayer d'un peu de décanter ces questions avec vous. Surtout aujourd'hui, en plus, on a sur France 2, Élysée 2022, l'émission avec Éric Zemmour. Donc, ça va être un peu l'actualité politique de la journée dans le monde francophone. Donc, la première question est assez générale. Donc, c'est où en est le paysage politique français à 7 mois des élections?
Écoutez, le paysage politique français à 7 mois des élections est assez flou. Hein. On est encore dans la pré-campagne, c'est-à-dire qu'on est au moment où on n'a pas encore non plus de candidats arrêtés, définis, mais on est à un moment où tout le monde teste sa candidature. Mmh. Vous savez, la moitié des gens qui sont en course, là, il y en a une douzaine à peu près. La moitié de ces gens-là, ils seront plus là dans 3 mois parce qu'ils vont avoir compris qu'ils n'ont pas le soutien, ils se seront ralliés. Donc, on est dans cette période-là. La seule, même la candidature d'Éric Zemmour n'est pas tout à fait certaine en ce moment, même si elle semble assez assurée, mais il n'a pas fait d'annonce officielle. Il ne fera probablement pas avant quelques semaines. Donc, je vous dirais que la seule candidature qui semble évidente en ce moment, c'est celle d'Emmanuel Macron. On peut s'attendre évidemment à une candidature Zemmour, à une candidature Le Pen, ça semble assuré, et probablement une candidature LR. À gauche, ça reste encore mystérieux, mais on est encore dans un grand flou, mais on sait par contre, on sait une chose, c'est-à-dire que le scénario qu'on nous avait annoncé, Le Pen-Macron, qui était annoncé depuis 3 ans, depuis 4 ans,
sorte de revanche,
presque même 8 ans, ce scénario-là, il vient d'être chamboulé avec l'arrivée d'Éric Zemmour, et donc tout est possible aujourd'hui encore de ce côté-là.
Donc tout d'abord, analysons la force d'Emmanuel Macron 7 mois avant le scrutin. Est-ce qu'on peut dire que M. Macron sort renforcé du cycle politique de 2021, surtout quand on voit un peu sa cote d'opinion qui n'a pas vraiment diminué ou comparé à ses anciens prédécesseurs au même moment?
Oui, absolument. Emmanuel Macron, je vous dirais, sort probablement renforcé de la dernière année là, qui vient de s'écouler. Bon, la situation économique française, en tout cas, évidemment, on est dans un contexte d'épidémie, c'est assez particulier, mais elle n'est pas si mauvaise. Il s'est assez bien sorti de la question de la vaccination, son passe sanitaire, même si ça a été contesté, c'est quand même soutenu assez largement par les Français. Donc, je pense qu'il n'y a pas trop de problèmes dans les actions récentes du président. Ce qui reste problématique, extrêmement problématique, je vous dirais, pour Emmanuel Macron, c'est que Emmanuel Macron a passé 4 ans, quelque part, à manger son chapeau. Emmanuel Macron était le candidat de la libéralisation, du marché libre. Il est devenu le candidat de la souveraineté industrielle,
avec France 2030 hier qui a été présenté, ou si on va dire c'est absolument du colbertisme à l'état pur qui a été proposé.
Tout à fait, alors qu'il était le candidat le plus libéral, hein, le moins interventionniste dans l'économie. C'était un candidat qui ne parlait pas de la sécurité dans les banlieues. Il a découvert ça il y a 6 mois, il y a un an. Il a lancé l'année à Marseille en septembre. Grand discours, son ministre Darmanin et sur tous les plateaux,
terrains.
Mais mais voilà, sur tous les terrains, mais c'est quelque chose qu'il a découvert. Même la politique industrielle, ce n'était pas sa tasse de thé. Il a investi dans le nucléaire tout à coup, mais il a fermé Fessenheim il y a 6 mois. Une centrale qui aurait pu
encore durer une vingtaine d'années.
Une vingtaine d'années, on pense à peu près une vingtaine d'années. Donc, et ajoutons l'immigration, qui n'était pas un sujet pour lui véritablement au moment de sa campagne. Il vient tout juste de faire pression sur tous les pays du Maghreb, sur le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, en restreignant les visas de sortie, les visas d'entrée en France, pour forcer ces pays à reprendre les demandeurs d'asile qui sont rejetés en France. Parce que vous savez qu'ils en reprennent à peu près aucun. C'est dans l'ordre de 2 ou 3 %. Là, ça se compte par quelques dizaines simplement, alors qu'ils sont des milliers à être rejetés par les juridictions. Donc, le grand problème d'Emmanuel Macron, c'est la crédibilité, parce que il se retrouve aujourd'hui sur des positions radicalement opposées à ce qu'il a toujours à peu près défendu.
Est-ce que c'est une volonté, vous pensez, de vouloir un peu survivre politiquement qui fait ça, ou c'est l'imposition du calendrier par des candidatures, c'est ça, comme celle de M. Zemmour, par un renforcement possible des Républicains si le Congrès réussit? Donc cette volonté de vouloir rester un peu comme cet étendard fourre-tout qui veut voter pour moi pour un peu sauver que ce soit une gauche centriste, une droite centriste, et rester au pouvoir.
Oui, Emmanuel Macron, vous savez, c'était le candidat ni droite ni gauche.
Oui,
donc, quelque part, il est un peu dans l'ordre des choses. Mais je pense que c'est un candidat qui a fait ses classes pendant 4 ans. Et ça, beaucoup d'analystes le disent ici. C'est un candidat, on a vanté sa jeunesse, c'était extraordinaire, mais il est arrivé au pouvoir sans expérience. Et on peut penser qu'il a découvert un certain nombre de choses en chemin. Dans quelle mesure il s'agit d'une découverte sincère? Dans quelle mesure est-ce qu'il s'agit d'un discours simplement présidentiel, électoral, qui risque de disparaître après la présidentielle? Ça, c'est difficile et c'est toute la question que les électeurs vont devoir se poser. Mais je pense qu'il y a des deux. C'est-à-dire qu'il a découvert, il a fait ses classes pendant 4 ans, ce qui n'est pas normal tout à fait pour un président. Normalement, un président arrive
pouvoir, déjà devrait, frais.
Oui, voilà. Mais c'était pas du tout le cas d'Emmanuel
sur
Macron.
On
s'est aperçu que c'était un politicien finalement assez peu expérimenté à tous les niveaux.
Sur ce sujet, il y a un livre très intéressant qui vient de sortir de Jean-Michel Apathy, le chroniqueur politique Les Amateurs, qui un peu explique tout c'est à quel point la politique les politiques proches d'Emmanuel Macron et même Emmanuel Macron même étaient vraiment aucunement préparés, et le fait de s'être formé sur le dur a été aussi assez problématique pour la santé de l'État et la santé même de la politique française.
Oui, absolument, absolument. Des gaffes avec l'armée, par exemple, avec le général des armées qui congédie comme ça un certain nombre d'erreurs, en tout cas, assez importantes. Emmanuel Macron, vous voyez, au moment des Gilets jaunes, a l'occasion de faire des investissements massifs dans la santé. Ça, vous imaginez, un peu avant une épidémie, comment ça aurait été extraordinaire. C'est ce que faisait Boris Johnson au Royaume-Uni à ce moment-là. Il ne le fait pas. Il laisse passer littéralement l'occasion. Il laisse passer l'occasion aussi de faire des investissements dans les régions à ce moment-là. Il ne le fait pas parce qu'il découvre les problèmes toujours un peu trop tard. L'impression qu'on a, c'est qu'il court un peu après les événements.
Vous parliez des généraux, ça me fait penser un peu au dossier de la défense et même de la politique internationale. Au niveau des élections, est-ce que vous pensez que des fiascos et la mise en contexte de la perte de leadership de la France et de sa position, un peu cette position à part dans l'échiquier politique international, est-ce que vous pensez que cette perte de leadership peut désavantager le candidat Macron lors des prochaines élections?
Je pense que ça peut jouer. Bon, vous savez, la politique étrangère, en général, ça joue rarement dans des élections nationales.
Néanmoins, on en a beaucoup parlé,
des sous-marins, quand même, est apparu comme quand même un symptôme là, du déclin français dans un domaine qui est très important en France, la défense, la production d'armement. Macron mise, je crois, probablement sur sa présidence de l'Union européenne pour essayer de rehausser son statut, mais là encore, il va se retrouver avec une présidence de l'Union européenne avec un gouvernement à Berlin qu'on connaît pas encore, qui sera peut-être même pas nommé. Et à Berlin, vous savez, on est un peu rentré dans le giron américain en ce moment avec la levée des sanctions sur le pipeline russe.
Totalement.
Donc je ne crois pas que la politique étrangère puisse beaucoup le servir. Vous savez, les présidents essaient souvent de lancer une petite guerre ou de faire une opération
pour booster un peu
la politique étrangère pour rehausser leur leur cote, mais je ne crois pas que Macron puisse arriver à faire ça.
Revenons un peu en rafale sur les différents autres potentiels candidats. Donc tout d'abord, à gauche, on parle souvent d'une union qui pourrait permettre un peu à la gauche d'exister un peu plus que les 11% de Jean-Luc Mélenchon au premier tour selon les derniers sondages. Néanmoins, est-ce que cette union est possible, et surtout, est-ce que cette union est possible derrière la personnalité de M. Mélenchon?
Je ne crois pas. Je pense que Mélenchon, c'est un solitaire. C'est quelqu'un qui avait à la dernière élection rallié le Parti communiste. Il ne l'a même pas cette année. Même le Parti communiste ne le suit pas. Mélenchon, c'est celui qui risque de faire le meilleur score à gauche, mais c'est celui avec qui l'alliance reste impossible. Une alliance Jadot-Hidalgo, est-ce que c'est possible? Ils sont chacun crédités de 5 ou 6 % tous les deux. Vous savez, on ne joue pas dans des gros chiffres.
Ça serait pas signifiant.
Peut-être, mais ça va rester assez marginal. Vous savez, hier, Clémentine Autain était en entrevue à la télévision de la France Insoumise, et très clairement, elle disait, elle, qu'elle jouait pour le coup d'après, pas pour cette présidentielle-là.
Il prépare un peu la succession, façon de parler.
L'après Mélenchon, oui. Voilà.
Ensuite, à droite, on a Xavier Bertrand qui a accepté de se présenter au Congrès des Républicains. Il avait menacé de faire chambre à part et d'y aller tout seul. Est-ce que c'est une chance pour LR de pouvoir peut-être se remettre en selle quand on sait que les Républicains ont connu dans les dernières années le même problème que la plupart des partis de droite traditionnels en Europe, se faire siphonner par des partis centristes au niveau centre-droit, un peu comme le parti d'Emmanuel Macron?
Oui, effectivement, le LR, les Républicains, c'est le grand parti de la droite française qui est en déclin, mais qui n'est pas autant en déclin, je dirais, que les socialistes. Donc, il est à une étape qui précède. Est-ce qu'il se rendra jusque-là? Possiblement, je pense qu'on peut le prévoir. Le grand problème des Républicains, c'est qu'ils vont être un peu hors jeu dans la campagne pendant jusqu'au 4 décembre. Oui. C'est très tard la désignation de leur candidat. Évidemment, un candidat républicain pourrait penser se classer arriver au deuxième tour de la présidentielle. Xavier Bertrand, Valérie Pécresse,
Michel Barnier.
Peut-être. Beaucoup de gens disent que les Républicains sont en train de se tourner vers Michel Barnier. C'est le seul qui est membre des Républicains et qui est resté membre des Républicains. Parce que Xavier Bertrand, vous savez, quitte les Républicains parce qu'il les trouve trop à droite et il revient chez les Républicains avec un programme encore plus à droite. Oui, voilà, c'est ça. Donc, récemment, j'ai appris que le magazine L'Opinion avait publié un sondage fait chez 10 000 sympathisants républicains. Et savez-vous qui arrivait en tête chez les Républicains?
Non, j'ai pas pu voir.
Éric Zemmour. Voilà. Ça va être la grande difficulté des Républicains. Est-ce qu'ils vont se faire siphonner littéralement par Zemmour ou pas? On verra.
Et donc, ça me fait aller à notre dernier sujet. Donc, sur Éric Zemmour et un peu aussi à côté Marine Le Pen. Donc, on a ce siphonnage des voix d'un côté comme de l'autre par le potentiel candidat Zemmour, ce non-candidat non déclaré, mais qui est à peu présent dans tous les médias, qui même ce soir va être à la grande messe de France 2. Comment on peut expliquer ce phénomène Zemmour à nos auditeurs au Québec et au Canada?
Écoutez, Éric Zemmour, c'est d'abord un journaliste qui est un excellent journaliste, je pense qu'on peut le dire, un écrivain aussi, qui a couvert la politique française depuis 30 et 40 ans. C'est quelqu'un, il faut lire son dernier livre pour voir qu'il connaît à peu près tous les raccoins de la politique française, autant de gauche que de droite. Hein. Il a été chevènementiste dans sa jeunesse. C'est quelqu'un qui, je vous dirais, est resté accroché, et c'est sa force et peut-être son défaut, à l'époque du RPR, de Charles Pasqua et de Philippe Séguin.
Il le dit souvent, plus qu'il est l'héritier du RPR.
Oui. Vous savez qu'à cette époque, le RPR était un parti relativement populaire. L'aura de Gaulle était encore là. Donc, les milieux populaires votaient encore RPR. Et c'est un parti qui était radicalement opposé à l'immigration. Tout à fait opposé à l'immigration, comme l'était d'ailleurs le Parti communiste de Georges Marchais, qui ne voulait rien savoir. Les milieux populaires, évidemment, voyaient les immigrants comme des concurrents, parce que l'immigration
pour
en France,
le travail.
C'est une immigration pauvre. C'est pas une immigration, c'est pas des ingénieurs qui immigrent en France, en général. Donc, c'est plutôt des immigrants pauvres. Donc, ces partis très prolétariens, on pourrait dire, très populaires, étaient radicalement opposé à l'immigration. Et Zemmour, c'est son cheval de bataille. C'est-à-dire, il considère que on a fait une erreur avec Chirac, avec Mitterrand, qu'on est tombé dans le panneau de Mitterrand qui a monté SOS Raciste, qui est parvenu d'ailleurs de cette façon à casser la droite. Et lui, son projet, c'est de revenir au programme du RPR et de réunifier la droite. C'est pour ça qu'il grappille à la fois chez Marine Le Pen et il grappille des voix à la fois chez la droite plus traditionnelle. Donc, c'est vraiment un candidat qui va faire campagne sur cette cette question-là fondamentale, mais qui trouve des racines, je dirais, dans l'histoire
de la droite.
C'est pas, oui, absolument, c'est quelqu'un qui est
L'extrémiste trumpien qu'on essaierait de présenter un peu assez rapidement.
Il pourrait être trumpien dans le sens où son électorat pourrait ressembler à celui de Trump. Oui, dans le sens de l'électorat, mais écoutez, c'est Éric Zemmour, c'est un intellectuel de haut vol.
Et encore,
tout le monde rêve en France d'avoir un débat, non pas Marine Le Pen, Macron, mais Zemmour, Macron, ne serait-ce que pour passer de 1h30 ou 2h, tous ceux qui aiment les débats politiques, pour passer 1h30, 2h à évoquer l'histoire politique. C'est quelqu'un qui connaît sur le bout des doigts toute l'histoire politique française.
Et encore,
qui aime débattre avec les gens qui sont pas d'accord avec lui. Donc, jusqu'à maintenant, d'ailleurs, je dirais que ça a été sa force. Est-ce que ça va se vérifier dans la réalité? Est-ce qu'il va pouvoir continuer à être un candidat, je dirais, plus idéologique, vous savez, plus qui a une analyse du monde et non pas nécessairement un programme précis, on va investir tant de millions de plus dans telle industrie. Ça, on ne le sait pas. Et le grand défi, je pense, d'Éric Zemmour, ce sera probablement les milieux populaires, parce qu'il a commencé à grappiller du côté du Rassemblement national, mais Marine Le Pen, c'est quelqu'un quand même qui est très...
très ancré.
Qui est très ancré, oui, dans certains milieux, et c'est ces milieux-là qu'il aura certainement de la difficulté à aller chercher, surtout avec un programme économique plutôt libéral. Vous savez, le problème qu'avait eu Fillon à la dernière élection,
où il proposait plus de privatisation, etc.
Parce qu'il proposait... ce problème-là peut se poser à Éric Zemmour. Ce sera en tout cas un défi pour lui d'aller chercher ces milieux-là.
Oui, parce que c'est très intéressant, c'est de voir aussi, on parlait d'électorat trumpien ou autre, c'est de voir que, par exemple, quand on voit dans les sondages, les principales personnes qui soutiennent une possible candidature sur Zemmour sont quand même des CSP+, assez éduqués pour le moment.
Oui, pour l'instant, c'est ça. Mais son objectif, lui, il le dit ouvertement, hein, il le dit clairement, et il parle d'ailleurs en particulier de Boris Johnson là-dessus. Il admire beaucoup Boris Johnson parce qu'il dit que Boris Johnson est arrivé à allier à la fois une partie de la bourgeoisie conservatrice,
avec un prolétariat populaire,
et aller chercher une partie de l'électorat traditionnel des travailleurs. C'est ce qu'a fait Boris Johnson. Et c'est la stratégie, je dirais, d'Éric Zemmour, qui répond quand même, en tout cas je pense que le succès pour l'instant s'explique comme ça, c'est-à-dire que en France, à cause des événements dont je vous rappelais, l'histoire du RPR, de Mitterrand et tout ça, la question d'immigration a été quand même une question relativement taboue. Elle a été taboue à peu près pour tout le monde, sauf pour Nicolas Sarkozy, mais Sarkozy, vous savez, il y a eu plus de naturalisation pendant son mandat qu'auparavant. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas fait grand-chose sur ce sujet-là. Donc il jouit, je pense, du fait qu'il parle librement de cette question. Et ça, les Français, je vous dirais, apprécient. En tout cas, un certain nombre de Français l'apprécient. Est-ce que ça suffit pour le projeter à un deuxième tour et même à la présidence? Ça, on verra.
Et à ce sujet, je conseille à tous nos auditeurs d'aller lire votre chronique du jour dans Le Devoir qui parle de ce point de vue de tapis à Éric Zemmour, le retour à l'avant des politiques d'immigration en France.
Très bien.
Je vous remercie, M. Rioux, d'avoir répondu à nos questions ce midi.
Parfois, c'est moi qui vous remercie.
Merci à vous. Passez une très belle journée. Au revoir. Notre deuxième invité, c'est Frédéric Véraud, chercheuse en résidence à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Landurant. Bonjour, Madame Véraud.
Bonjour, M. Corona.
Avec vous, on va discuter de la santé du Parti démocrate à un an des midterms. C'est assez une question à l'avant au niveau de la politique américaine, parce qu'on sait souvent que les midterms sont un peu une élection qui va contre le parti au pouvoir. Mais là, en ce moment, on a beaucoup de querelles qu'on pourrait dire byzantines au Parti démocrate. Donc, on va revenir rapidement avec ça sur vous. Donc, généralement, on sait que les dynamiques sont mauvaises pour le président en poste. Est-ce qu'on va pour l'instant dans cette même dynamique à un an des midterms?
Oui, c'est sûr, comme vous l'avez dit, en fait, historiquement, c'est vraiment ce qu'on voit. Donc, le parti qui est au pouvoir à la présidentielle va généralement perdre des sièges au Congrès lors de l'élection d'un mandat suivant. Donc, autrement dit, le Parti démocrate risque de perdre des sièges en 2022 parce que les mi-mandats, c'est vraiment comme un référendum sur la performance du président et du parti qui est au pouvoir. Fait que si on se fie aux tendances historiques, oui, le Parti démocrate risque de perdre. Par contre, il y a quand même il y a eu des moments dans l'histoire où ça s'est pas passé comme on l'aurait cru. Et la dernière dernière fois, ce sera en 2018. Donc, quand le Parti républicain au Donald Trump, au mi-mandat de 2018, a quand même fait des gains à la Chambre des représentants.
Au niveau des programmes, comment se dessine un peu, même si dans un an c'est assez long, comment se dessine un peu les différents programmes que présenteront les démocrates, surtout en ce moment avec les démocrates, où on a la difficulté à faire adopter l'agenda Biden du fait de querelles entre l'aile progressiste et l'aile centriste?
Bon, mais c'est sûr que le Parti démocrate va continuer sur l'agenda politique qui a été présenté par Joe Biden, parce que oui, on a réussi à faire adopter certaines lois très ambitieuses, mais il reste encore beaucoup à faire pour ce qui est de cet agenda-là. Mais ce qui va vraiment être en jeu pour les élections du mandat, c'est le contrôle du Congrès, parce que si on perd, par exemple, la Chambre des représentants, on va avoir beaucoup plus. En fait, ça va être quasiment impossible de faire adopter des lois par cette chambre-là pour ensuite les amener au Sénat. On ne sera pas en mesure de faire avancer l'agenda législatif et tout ça, ça pourrait vraiment... en fait, les partis démocrates risquent d'en payer le prix en 2024.
Au niveau des différences entre les différents camps, donc on sait que l'un des problèmes en ce moment pour faire adopter l'agenda Biden, ce sont donc les difficultés d'union et de synthèse entre les volontés d'un camp dit progressiste, avec l'une de ses stars, Alexandria Ocasio-Cortez, pour représenter un peu pour nos auditeurs, et d'un camp centriste où deux personnes un peu sont à l'avant de ce camp, sont deux sénateurs, l'une sénatrice de l'Arizona, Mme Kristen Sinema, et l'autre sénateur de la Virginie de l'Ouest, M. Joe Manchin. Donc expliquez-nous un peu les différences dans ces camps et pourquoi ça achoppe pour faire adopter les deux grandes lois, les deux dernières grandes lois de l'agenda Biden, la loi sur les infrastructures et l'autre loi sur le filet social.
Oui, donc en fait, on a le côté centriste, donc plus modéré idéologiquement, sont beaucoup plus pragmatiques et d'habitude plus prompt à faire des compromis, un peu plus frileux à prendre position. Et vous en avez nommé deux que moi, personnellement, je mettrais plutôt du côté très centriste où, disons qu'ils ne correspondent pas nécessairement au moule des modérés qu'on a tendance
qu'on
à voir habituellement. Exactement. Du côté progressiste, bon, donc plus à gauche, on est à la recherche d'un idéal sociétal. On va prendre position de manière un peu plus assumée sur des enjeux qui sont parfois plus chauds. Et comme vous avez nommé Alexandria Ocasio-Cortez, mais cette dernière, encore une fois, on pourrait la mettre dans un camp des super progressistes, en fait. Donc,
ce sont un peu plus les caricatures de ces deux camps que j'aurais cité.
Exactement, mais ça donne une très bonne idée. Et puis, oui, pourquoi ça achète, en fait, c'est que ces deux camps-là ont le sentiment d'avoir la bonne vision de ce qui devrait être l'avenir du Parti démocrate, mais aussi du pays.
Et donc, du mal à faire des compromis parce qu'ils pensent que leur vision doit être une vision un peu qu'ils suivent de manière assez religieusement.
Exactement, surtout dans une ère qui est très polarisée.
Oui.
Donc, pour les progressistes, c'est un petit peu un calcul politique. On va essayer de tirer la couverture de notre côté parce que la conjoncture politique, elle est favorable. Donc, les démocrates ont la présidence et ont le Congrès. Tandis que du côté modéré, surtout en prévision des élections de mi-mandat, il y a vraiment une crainte électorale, surtout dans des districts un peu plus conservateurs où est-ce que les représentants pourraient perdre leur siège à moins d'un an des élections. Mais il faut quand même dire, il y a un gros narratif qui dit que en fait, ce sont les progressistes qui ont de la misère, qui sont très inflexibles et qui sont intransigeants, mais dans le cas présent, surtout sur ce qui est de la loi sur l'infrastructure, le Build Back Better, ce sont vraiment les modérés
qui ont coupé au niveau de la valeur. On sait que c'est passé de 5 milliards à 3,5 trillions à 3,5 trillions et maintenant ils proposent 2 trillions. Donc on a l'impression qu'à chaque fois qu'une négociation s'ouvre, ils demandent moins. Et ça mène un peu à la question suivante. C'est que souvent, et on a pu voir avec certains liens, je vais reprendre l'exemple de nos deux sénateurs que j'ai pu citer précédemment, Mme Sinema et Mme Manchin, on a l'impression que ces dernières personnes de ce camp modéré suivent aussi un peu des demandes qui ont pu être émises par leurs backers financiers. Est-ce que c'est aussi un problème du camp modéré qui est plus à l'écoute des personnes qui les supportent de manière financière que leurs propres administrés?
Oui, c'est certain, et vous avez probablement nommé les deux meilleurs exemples. Oui. Donc, Sinema et Manchin sont vraiment, en fait, c'est comme s'ils écoutaient leurs bailleurs de fonds plus que leurs électeurs. Et un autre exemple qui est vraiment très frappant à cet égard-là, c'est toute la question du coût des médicaments. Donc, on sait que c'est vraiment une volonté des démocrates et même de certains républicains là, de permettre au gouvernement fédéral de négocier avec les pharmaceutiques pour baisser le prix des médicaments. Eh bien, Sinema et Manchin s'opposent à ça. Ils disent que ça pourrait être mauvais pour l'innovation des pharmaceutiques parce qu'on pourrait croire qu'en fait, ils ont du financement de ce genre de compagnie. Donc, on voit vraiment que de ce côté-là, c'est difficile pour eux. Et même, ce qui va porter certains démocrates un peu plus progressistes à les qualifier de corporate démocrates. Donc, qui sont, en fait, qui sont vraiment...
Qui sont plus proches du côté des corporations.
Exactement. Donc,
l'autre question, c'est par rapport à tous ces problèmes, c'est que de l'autre côté, on voit une cote de popularité du président Biden qui oscille entre 38% et 50% d'opinion positive. Dans certains médias, on va dire que c'est assez bas, mais quand on y compare à la cote de popularité de M. Trump, ça reste quand même assez élevé. Et que l'agenda de Biden, et surtout l'agenda Build Back Better, et donc l'agenda par rapport au tissu social et aussi aux questions de santé, est quand même assez supporté. Donc pourquoi il y aurait donc inquiétude dans ces rangs démocrates? Si, par exemple, cet agenda est élu, on peut penser que l'échec annoncé potentiel au midterm n'aurait pas lieu. Donc, pourquoi il y aurait inquiétude?
Ben, il y a inquiétude d'abord parce qu'on le dit, c'est la tendance historique électorale. On veut souvent perdre des sièges. Il y a évidemment, ben, c'est sûr qu'on dit que c'est une cote de popularité qui est... C'est pas une très bonne cote de popularité, là, on doit se le dire. Oui. Et il faut aussi dire qu'elle a beaucoup descendu depuis la fin de l'été.
Depuis l'Afghanistan.
Ouais, exactement. Mais par contre, on peut dire que les retraits des troupes de l'Afghanistan, donc ça explique pour un moment, mais là, finalement, on se dit que c'est peut-être un peu plus la gestion de la pandémie, puisque cette baisse, eh bien, elle se continue à long terme. Il y a aussi toute la question de l'état de l'économie. Donc, les Américains, on sent entendre un certain pessimisme, un certain petit marasme, là, notamment pour toute la question de l'augmentation des prix des biens de la consommation. Et on sait que c'est le genre d'enjeu qui va vraiment être déterminant pour l'élection en moins d'un an. Donc, c'est que tout ça, ça rentre en compte. On peut aussi rajouter le fait que, en fait, on aurait découpé les districts électoraux. Donc,
c'est ça. On a le gerrymandering comme d'habitude.
Exactement. Le Parti républicain a dominé la plupart de ces redécoupages. Et donc, de ce qu'on en croit, on croit que le Parti démocrate serait affecté. Il va falloir voir après l'élection vraiment à quel point ce bilan-là était négatif. Mais voilà.
C'est ça, d'ici un an, on peut se dire aussi que de l'autre côté, certes, les Républicains peuvent gagner au niveau du redécoupage. Néanmoins, on a une continuation des changements démographiques dans certaines circonscriptions et dans les États en général qui vont, sur le long terme, à l'avantage démocrate. Donc, est-ce que peut-être ce redécoupage républicain pourrait se retourner aussi contre le Parti républicain? Est-ce que vous pensez à ça?
Oui, c'est possible. C'est vrai, c'est tout à fait possible. Mais en même temps, il faut dire que en 2020, ce qu'on a vu là, de ce qui est ressorti des élections, c'est que les républicains ont quand même réussi à s'accaparer un certain bassin d'électeurs issus des minorités ethnoculturelles, qui c'était peut-être la première fois qu'ils votaient. Et de l'autre côté, on a vu aussi que le Parti démocrate a réussi quand même à gagner un certain nombre d'électeurs blancs. Donc, il faut voir si ces tendances-là existent, mais il faut pas s'arrêter. C'est pas aussi clair blanc et noir. Là.
En conclusion, votre pronostic rapide pour la prochaine année politique américaine?
Ben en fait, ce serait plutôt des conclusions ou faire attention à quelques petites choses. Donc, regarder de plus en plus ce que Donald Trump va faire. Donc, voir s'il va avoir... Il risque d'avoir un rôle assez important dans la mobilisation des électeurs républicains pour 2022. Et ça va nous dire beaucoup sur ses intentions en 2024. On va aussi regarder l'état de l'économie, la perception de l'opinion publique par rapport à cet enjeu qui risque d'être crucial. On va regarder ce qui va se passer au Congrès pour les deux lois très, très ambitieuses que le Parti démocrate tente de faire passer. Et comme je l'ai dit, on va voir un peu le redécoupage des districts, le voir qu'est-ce que tout ça peut avoir comme impact sur les résultats.
Merci Madame Véro d'avoir répondu à nos questions ce midi.
Ça me fait plaisir, merci.
Je rappelle que vous êtes chercheuse en résidence à l'Observatoire sur la politique américaine de la chaire Raoul Dandurand. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Monde d'aujourd'hui.